Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, oui, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêt à attaquer cette nouvelle semaine avec des idées de contenu, des choses à réaliser, à mettre en ligne, peut-être vous avez des idées de vidéos d'ailleurs, oui, car aujourd'hui je voudrais vous parler de YouTube. Alors j'en ai assez peu parlé de YouTube, alors que pourtant c'était la plateforme incontournable, c'est notre télé peut-être, notre nouvelle télé sur laquelle nous avons toujours de nouveaux contenus à regarder. Si je regarde ma playlist de vidéos que je n'ai pas regardées sur YouTube, mais que pourtant j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard, elle est pleine à craquer. Et oui, parce que c'est un monde incroyable en termes de contenu. Et en fait, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une plateforme qui est incontournable dans le paysage Internet. C'est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. C'est un endroit où on y passe énormément de temps. C'est un endroit qui est extrêmement difficile, où la concurrence, bien sûr, est très importante. On pense tout de suite au nombre de vidéos, aux heures de vidéos qui sont ajoutées chaque minute, à la concurrence incroyable qu'il y a dessus. Mais en fait, la difficulté de YouTube est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Beaucoup se focalisent sur la qualité de la vidéo. Et parce qu'on se dit, oui, c'est ce que les gens vont regarder, la qualité de la vidéo, si ma vidéo est bien réalisée ou quoi que ce soit. Même certains pensent que la vidéo se suffit à elle-même. Vous savez, c'est le piège de se dire, je mets ma vidéo sur YouTube et puis la visibilité qu'il y a dans YouTube est telle que ma vidéo sera vue. Alors ça pouvait marcher au départ, quand il devait y avoir une vidéo ajoutée par jour. Je vous rappelle que la première vidéo de YouTube, c'est les créateurs de YouTube qui mettent leur visite au zoo de San Diego sur YouTube. Le simple fait de mettre une vidéo en ligne à l'époque sur cette plateforme-là était un événement en tant que tel. Mais ça fait des années que ce n'est plus le cas. Vous pouvez mettre votre vidéo dessus, personne n'en a rien à faire. Tout simplement parce que ce n'est pas de mettre en ligne votre vidéo qui est un événement en tant que tel. Mais c'est pareil, vous savez, pour ceux qui envoient un communiqué de presse pour dire « nous avons une chaîne YouTube ». Oui. Ou pour dire « nous avons une page Facebook ». Où nous venons de lancer notre site internet. Combien de communiqués de presse je reçois de « Oui, aujourd'hui, nous venons de lancer notre premier site internet. » Ah oui, bon, et vous en vantez ? Non. Bon, les vidéos YouTube, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on est focalisé sur notre vidéo, la production de la vidéo, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire autour. La difficulté de YouTube, en fait, c'est que vous êtes obligé de multiplier les casquettes. Vous êtes obligé de multiplier vos capacités, vos compétences. Vous êtes obligé d'en avoir plusieurs et plusieurs en même temps. Alors, déjà, parlons de ces casquettes. Vous devez avoir au minimum, on va dire, 4 grandes casquettes. Et le pire, c'est qu'il faudrait exceller sous toutes ces casquettes-là, c'est-à-dire passer d'un rôle à l'autre, ou même de jouer tous les rôles en même temps. Surtout quand on est tout seul, comme nous, on a notre propre petite chaîne dans notre coin, on fait notre truc tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah déjà, il faut être un peu comédien. Le simple fait d'apparaître à l'écran nous place dans ce rôle. Apparence, look, regard, prononciation, mais aussi jouer un petit peu, soit on joue un rôle, soit on joue son propre rôle, soit on essaye, en tout cas, de bien paraître. Bon, bah ça, c'est notre côté comédien. Il faut être aussi scénariste. Prévoir sa vidéo, le script, faire un storyboard minimum, de savoir ce que l'on veut mettre dedans, de quoi on veut parler, quels sont les plans dont on a besoin, est-ce qu'on a besoin de montrer quelque chose de particulier, est-ce qu'il faut aller à un endroit particulier, est-ce qu'il faut aller parler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, même le live, qui paraît être quelque chose qui est improvisé, est un minimum préparé. Vous savez, dans les lives, on dit un truc, notamment pour les Facebook Live, on dit qu'il faut arriver à scénariser l'imprévu. C'est-à-dire que si vous faites un live un jour en disant « Tiens, je vais aller faire un live de ma visite au marché de opus de je sais pas quoi », ben il va falloir prévoir à un moment donné que vous allez aller voir un stand en particulier, donc demander à la personne si elle accepte d'être filmée, faire peut-être rentrer quelqu'un dans votre champ pour que ça soit un petit peu plus sympa, qu'il y ait plus de dynamisme, prévoir vraiment à quels endroits vous allez aller et pas juste partir comme ça à l'inconnu. Non, ça vous pouvez pas le faire. Surtout qu'en live, en fait, comme les gens sont en train de regarder en direct ce que vous faites, bon, il y a un moment donné, s'ils s'ennuient, ils s'en vont. Vous devez être aussi réalisateur, bien sûr. Filmer, prévoir la lumière, la qualité du son, anticiper le tournage, les scènes, le matériel, les logiciels, tout ça. Bref, voilà, il y a toute cette partie-là. Le réalisateur passe bien sûr du temps derrière sa caméra, mais passe aussi beaucoup de temps à anticiper les choses. Bon, bien sûr, vous avez un rôle de monteur. Assemblez tous ces éléments pour faire une vidéo agréable. Vous avez filmé des heures et des heures de vidéos. Vous avez plein d'images, etc. Ben, comment vous en faites une vidéo qui ne fera que 5 minutes et qui sera vue au minimum, on va dire, à 75% de son temps. Oui, car votre objectif est d'arriver, on va dire, à... Allez, si vous faites 5 minutes de vidéo, si vous arrivez à 3 minutes 30, YouTube va considérer que les gens ont vraiment regardé votre vidéo et que vraiment elle intéresse les gens. Si les gens, au bout de 3 secondes, ils sont déjà partis, non, vous ne serez pas une vue sur YouTube. Alors peut-être sur Facebook, vous en serez une, mais sur YouTube, vous ne serez pas une vue. Ce qui vous intéresse, vous, c'est que les gens, ils arrivent le plus loin possible dans votre vidéo. Et d'ailleurs, dans les statistiques de YouTube, c'est là-dessus où ils sont quand même beaucoup plus sérieux, on va dire, que Facebook dans cette histoire-là. C'est que votre vidéo, si elle n'est pas vue un minimum de temps, un minimum de son pourcentage de temps, mais aussi un minimum de secondes, soyons honnêtes, eux, ils la comptent pas dans les vues. Hein, voilà, et c'est clair, et c'est normal. Bref, ça vous fait beaucoup de casquettes, et à celle-ci, je dois rajouter une casquette de stratège. Faire de la vidéo, c'est bien, mais la faire connaître, c'est mieux. Et ça commence avant même d'appuyer sur le bouton « Enregistrer ». Il est clair, en fait, que le succès des chaînes YouTube vient principalement de la vidéo, de ce qu'on voit dans la vidéo, mais pas que. Hein, soyons honnêtes, il faut maîtriser la globalité du processus que je vous ai donné juste avant. Mais en fait, il y a un truc qui est important, c'est comment stratégiquement vous allez anticiper, prévoir votre chaîne, prévoir vos vidéos, et comment vous allez anticiper le parcours de votre audience sur votre chaîne. Et là-dedans, vous avez 4 grandes stratégies à mettre en œuvre, et 4 grandes stratégies à mettre en œuvre un petit peu de manière parallèle, mais bon, on va en dire, on peut anticiper certaines choses. Les 4 grandes stratégies, c'est quoi? Déjà, vous devez avoir une stratégie de chaîne. Oui, comment la chaîne apparaît aux utilisateurs de YouTube? Son nom, sa cible, son aspect, son organisation, ses thématiques, le look de vos vidéos, le jingle, votre habillage graphique, vous et comment vous vous présentez, vous voyez, la casquette acteur. Ben, tout ça joue un petit peu. Est-ce que votre chaîne paraît sérieuse? Est-ce qu'elle paraît amusante? Est-ce qu'elle est, sur une thématique particulière ou est-ce qu'elle n'a pas de thématique? Là, les gens, ça, vont le ressentir. Mais pour pouvoir le ressentir, il va falloir qu'ils vous trouvent. Et c'est là où il faut mettre en œuvre la stratégie de recherche et de découverte. Comment trouve vos chaînes, votre chaîne et vos vidéos? Comment les gens arrivent dessus? Alors bien sûr, il y a des choses qui sont le titre, la description, les métadonnées. C'est un petit peu tout le SEO le SEO de YouTube en interne, etc. Mais c'est aussi finalement, est-ce qu'il y a d'autres moyens que d'être découvert par le moteur de recherche? Et donc là, il y a des stratégies de partenariat, etc. Vous avez aussi une stratégie à mettre en œuvre, c'est finalement les gens sont arrivés en touriste sur votre vidéo, votre chaîne, c'est comment vous allez mettre en œuvre une stratégie de développement et de l'audience et de la fidélisation, pardon, j'ai du mal à le dire. Comment les faire revenir? Comment les faire s'abonner? Qu'ils appuient sur le bouton s'abonner pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, qu'elle apparaît dans leur flux de lecture. Comment faire en sorte que quand une nouvelle vidéo arrive, ils aient envie de la regarder? Comment faire en sorte de leur faire regarder plus de vidéos? Hein, il y a des liens internes entre les vidéos, des choses comme ça qui peuvent être faites. Et la dernière stratégie, bien sûr, c'est comment vous produisez vos vidéos. Hein, parce que, à limite, c'est bien beau de dire, je vais faire une belle chaîne, je vais bien l'organiser, comment je vais être trouvé, etc. Mais bien sûr, il faut faire vos vidéos. Et là, j'en reviens à comment je vais réaliser ma vidéo, comment je vais la prévoir, la filmer, la monter. J'en reviens à tous mes rôles dont je parlais avant. Alors, pour imaginer un petit peu mon propos, on pourrait imaginer qu'en fait, votre chaîne YouTube, votre projet YouTube, c'est un peu comme un projet de restaurant. Voilà, considérez votre chaîne YouTube comme un restaurant. Souvent, le chef pense d'abord d'ailleurs à sa cuisine, hein, vous voyez, et puis il fait sa plus belle des cuisines, il fait ses plats, etc., il soigne ses assiettes, tout ça, c'est beau et autres. Mais à un moment donné, il doit d'abord faire aussi, je sais pas dans quel sens, mais on va dire... C'est bien beau de prévoir toute sa cuisine, mais il faut aussi faire venir les gens dans son restaurant. Et puis une fois qu'ils sont dans son restaurant, il faut rendre l'expérience dans le restaurant suffisamment agréable pour que le client apprécie le plat, mais aussi envie de revenir et en parle à ses amis, revienne régulièrement. Et bien le restaurant, c'est votre chaîne YouTube. elle doit faire bonne impression. Hein, un restaurant, il doit être beau, bien présenté, on doit avoir envie de rentrer dedans quand on arrive devant la devanture, on doit vouloir passer la porte, parce qu'il y a des effluves, parce qu'il y a la carte est bien affichée, vous voyez, toutes ces notions-là du restaurant. Ça, ça se prépare avant l'ouverture du restaurant. Hein. Est-ce que vous mettez des petites nappes? Est-ce que vous mettez des beaux verres sur vos assiettes, sur vos tables? Est-ce que les tables sont serrées, pas serrées? Tout ça, c'est la stratégie de votre chaîne, c'est la stratégie de votre restaurant. Donc, c'est comment ça vous allez le prévoir. Vous devez faire venir les gens. Parce que les gens, quand ils sont devant, pour qu'ils rentrent dans votre restaurant quand ils sont devant, il faut d'abord qu'ils arrivent devant votre restaurant. Et ça, c'est leur montrer qu'il existe, le faire connaître. L'inscrire dans les guides, faire en sorte que les gens qui cherchent un restaurant puissent savoir que votre restaurant existe, c'est-à-dire qu'ils puissent arriver même devant la porte avant de pousser la porte. Voilà, vous avez fait un beau restaurant, maintenant il faut faire venir les gens devant le restaurant et leur faire envie de pousser la porte du restaurant. Une fois qu'ils sont dans le restaurant, bah, c'est l'accueil, c'est comment vous les accueillez, est-ce qu'on se sent bien, etc. Mais c'est aussi bien sûr vos plats. Et vos plats, bah, sur votre chaîne YouTube, sur vos vidéos. Hein, bien sûr, ils vont se régaler avec. C'est une condition indispensable pour qu'ils deviennent fidèles. Mais ce n'est pas la seule condition. Combien y a-t-il de restaurants où vous trouvez que finalement vous y mangez bien, mais vous n'avez pas envie d'y retourner? Hein, comment, pourquoi vous devenez régulier, des clients réguliers de certains restaurants et pas dans d'autres? C'est pas seulement la qualité du plat, c'est pas seulement le fait que ce soit beau ou pas beau, c'est une ambiance, c'est quelque chose de global, c'est, bah oui, ça peut être le sourire de la serveuse, la sympathie du patron, le petit geste commercial, la petite attention qu'il a pour vous, le petit message qu'il vous envoie, ou je ne sais pas quoi, enfin, qu'il vous envoie, hein, dans un restaurant, c'est, et des fois, il va vous offrir le café, des fois, il va tout simplement être sympathique, il va vous demander comment vous allez, ou quoi que ce soit, ou s'il peut vous aider, ou si vous êtes avec votre chien, ou votre... ou un enfant, il va faire attention à ce que votre chien ait une gamelle d'eau ou que votre enfant ait une chaise haute pour s'asseoir. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Je dis ça parce que l'autre jour, je regardais, il y avait des restaurants, vous savez, qui refusent les enfants parce qu'ils trouvent que ça trouble l'ambiance du restaurant. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui ne seront jamais fidèles de ce restaurant-là, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas y aller en famille et qu'eux, ils ont envie d'y aller en famille. Voilà, c'est comme ça. Donc, votre restaurant, pour que les gens reviennent, il faut qu'ils se régalent. Mais ici, il faut qu'ils se sentent bien chez vous, qu'ils aient envie de revenir, donc que l'accueil soit sympa, que la qualité soit la même aussi à chaque fois qu'ils reviennent aussi, qu'ils puissent goûter aussi de nouvelles choses, mais retrouver leur plat préféré. Vous savez, on a toujours nos habitudes. On va prendre 5 fois une pizza, mais des fois on va dire, bah tiens, je vais changer. Ah, la carte du jour aujourd'hui, elle me plaît bien. Vous voyez, toutes ces choses-là comme ça. Et ben c'est ça la stratégie de fidélisation. Décidément, aujourd'hui, j'ai un problème pour dire ce mot, et de développement. La difficulté de YouTube, c'est que vous devez penser à l'ensemble de ces éléments-là. Souvent, on focalise, je vous le redis, sur la partie production de la vidéo. On investit du temps dedans. On est attaché à notre qualité, à notre travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète du matériel, on achète un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra, on achète des micros pour faire un son qui soit meilleur. On va faire la décoration de la pièce où on va filmer. On va mettre un meilleur pied, on va mettre de la lumière, une première lumière, une deuxième lumière, une troisième lumière. Changer de micro, changer d'appareil, mettre un autre objectif. Ouais, voilà, tout ça. On va faire attention aussi à la manière dont on parle, à la manière dont on se présente, on va essayer de pas trop lire, on va essayer de bien regarder dans l'objectif. Vous voyez toutes ces choses-là là-dedans. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un investissement important, un investissement en temps, un investissement dans la réflexion que l'on a, un investissement émotionnel. Hein. C'est notre bébé qu'on fait, c'est ça. Et notre audience, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle arrive en touriste. Voilà, elle arrive en touriste sur la chaîne. Et c'est ce qui déstabilise beaucoup les gens sur YouTube. C'est qu'en fait, on se dit, on met beaucoup de nous-mêmes dans une vidéo pour la produire, pour la montrer qu'elle soit belle, etc., pour la monter, mais les gens, eux, sont des touristes. Et les touristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le truc, ils s'attachent pas trop à la qualité, ou ils s'attachent pas trop à... ou alors ils s'attachent trop à certains détails, vous voyez. C'est vous pensez, franchement, que la qualité est suffisamment bonne, mais eux, ils s'attachent à un petit détail. Mais c'est valable pour plein de choses comme ça. C'est... attention, par exemple, des fois c'est bête, hein, vous faites attention à votre vidéo, à la qualité de la vidéo, mais vous faites une faute d'orthographe dans la description et vous avez les gens qui sont là, qui disent « Ouais, il y a une faute d'orthographe dans la description, c'est dommage ?» Oui, et c'est là où vous dites « Ouais, mais ils sont pénibles, c'est vraiment le public touriste, etc. Moi, ça m'intéresse pas, je veux pas les touristes. » Et oui, car c'est là la problématique. Nous passons des heures et des heures sur nos contenus. Notre audience, elle, n'y passe que quelques secondes. Et en fait, nous devons faire en sorte qu'elle ait envie d'y passer plus de temps. Et c'est là où ces stratégies-là se mettent en œuvre. C'est là où la stratégie de marque de notre chaîne, parce que notre chaîne, ce que je viens de vous dire, la stratégie finalement autour de à quoi ma chaîne ressemble, c'est une stratégie de marque. Et c'est là que ça rentre en jeu, tous ces éléments-là. C'est-à-dire que les gens, eh ben, ils arrivent sur une chaîne qui correspond à ce qu'ils recherchent, que la chaîne leur plaise, que la chaîne leur donne envie de regarder d'autres contenus, qu'ils aient envie de s'abonner, et qu'on les transforme de touristes en abonnés, en fans, en personnes, même des fois qui sont ambassadeurs, parce qu'ils vont la partager, la recommander à leurs amis. Quand vous allez leur dire, bah tiens, t'as pas une idée de... d'où je pourrais retrouver ça sur YouTube, est-ce que t'as pas une idée de chaîne intéressante ou quoi que ce soit, ils donnent votre nom. C'est notre rêve à tous là-dedans. Ça, c'est le rêve à tous de toute personne qui est sur YouTube. Mais en fait, c'est pas seulement notre rêve de YouTube, c'est notre rêve de tous nos contenus. Tout ce que je viens de vous dire ne s'applique pas qu'à YouTube, s'applique quelque part à tous nos contenus. Que vous fassiez du blog, du podcast, de l'Instagram ou quoi que ce soit, notre enjeu est toujours de transformer une audience touriste en audience fan. Voilà, c'est ça. Et je vous parlerai prochainement, et en plus je vous l'ai promis il y a déjà quelques temps, de vous parler de l'inbound marketing, qui notamment fait partie de ça. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à faire venir des gens chez nous, et on les transforme petit à petit en gens qui sont des inconnus, en personnes que l'on se met à connaître, et qu'on va essayer de fidéliser. Et ben, c'est le grand... Oui, c'est l'enjeu, oui, c'est un des grands enjeux de notre... de la création de contenu. Tout ce que je viens de vous dire sur YouTube, la stratégie qu'on doit mettre en œuvre sur YouTube, est valable aussi pour n'importe quel autre contenu. Et selon les cas, les casquettes que vous avez sur YouTube, et notamment ces casquettes de monteur, réalisateur, comédien, etc., sont aussi des casquettes que vous devez porter sur d'autres contenus. Alors peut-être pas forcément de la même manière si vous faites de l'écrit, si vous faites de l'audio ou si vous faites de la photo. Très clairement, c'est pas forcément toujours les mêmes qui sont les plus visibles, mais c'est sûr que par exemple, si vous faites de l'audio, vous devez penser à votre côté comédien. Il est indispensable que vous travaillez sur la diction, sur la manière de faire vivre vos contenus et sur la manière, quelque part, de les jouer. Si vous faites de la photo, si vous faites de l'Instagram, il y a un vrai côté à se demander d'ailleurs si vous ne devez pas être aussi un comédien dans vos photos. Est-ce que vous devez vous montrer, pas vous montrer, mais dans tous les cas, vous devriez être aussi prévoir où vous allez faire vos photos. Vous voyez par exemple, hier, moi j'ai fait des photos pour mon compte Instagram. Il y a un moment donné, où j'ai regardé l'heure, j'ai dit « Waouh ! Attention, la luminosité devient de plus en plus courte, j'ai pas envie de les faire à la lumière artificielle, donc je dois anticiper à quel moment je dois faire ma photo, où je dois me placer, quelle va être la lumière, etc. » Donc, quel que soit le contenu, vous devez avoir ces casquettes, hein, ces casquettes à la fois de comédien, de réalisateur, d'anticipateur, vous voyez, de tout ça, mais aussi de stratège, et vous devez mettre en œuvre ces quatre stratégies-là, ces quatre grandes stratégies-là, qui sont, je vous rappelle, stratégie de chaîne, mais on pourrait dire de marque, stratégie de recherche et de découverte, j'avais parlé un jour du mot découvrabilité, stratégie de développement de l'audience et de fidélisation, et stratégie de production d'un bon contenu. Voilà. Quand vous mettez en œuvre ces quatre stratégies, quand vous réfléchissez à ces quatre stratégies-là, et bien quelque part, vous avez vos stratégies globales de production et de développement de votre contenu pour votre marque personnelle, pour vos contenus, pour votre blog, votre podcast, votre bouquin, votre chaîne YouTube ou n'importe quel autre support qui va arriver, parce que bien sûr ça marchera pour du Twitch, bien sûr ça marchera aussi pour du Snapchat, bien sûr ça marchera aussi pour le futur réseau qui arrivera, du Pinterest. Vous êtes exactement aussi dans cette logique là et les futurs réseaux qui arriveront, s'il y en a un qui arrive à exister et à se développer, et ça sera exactement la même chose, mais c'est aussi bien sûr exactement la même chose aussi pour tout ce qui est newsletter. Bref, c'est toujours la même logique qui s'applique. Nous devons faire en sorte de produire des bons contenus, nous devons faire en sorte qu'ils soient découvrables, nous devons faire en sorte que les gens aient envie de les voir et de les revoir et les attendre ces nouveaux contenus-là. Et nous devons faire en sorte que l'emballage global soit le plus pertinent et le plus accueillant et le plus agréable. Et bien sûr, il y aura une dernière stratégie à rajouter là-dedans, c'est que quand vous aurez fait tout ça, et bien il faudra trouver un moyen pour en tirer des revenus, pour en vivre, si c'est ça votre ambition. Mais là, ça sera un autre sujet, j'en parlerai bien sûr au fur et à mesure des autres épisodes. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.